présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La mort du petit prince. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP. Moi, j'aimerais apprendre à jouer du piano. Pourquoi est-ce que tu ne le demandes pas à tes parents? Chaque fois que je leur demande, ils disent qu'ils n'ont pas le temps de me chercher un professeur. Ils sont toujours pris. Ils courent tout le temps. Remarque, tu as de la chance, car comme ça, ton père ne regarde pas tes notes scolaires. Qui signe ton carnet? C'est Jeanne, la bonne. C'est elle qui s'occupe le plus de moi. Elle est gentille, Jeanne. C'est celle qui vient te chercher de temps en temps et qui a de beaux nichons? Ouais. Didier s'arrête au numéro 15 du boulevard des Belges. Salut, je suis arrivé. Salut, à demain Didier. À demain Polycarpe. Et Didier entre dans son immeuble. Un petit immeuble de 3 étages, cossu, style 19e. L'allée est en marbre et les escaliers sont recouverts de moquettes rouges. Arrivé au 3e étage, il sonne. La porte s'ouvre. C'est la bonne Jeanne qui le fait entrer. L'appartement est un grand 5 pièces, couloir d'entrée, à gauche, bureau, salon, salle à manger, à droite, deux chambres, cuisine, salle de bain. Carreaux noir et blanc dans le hall d'entrée, parquet ailleurs, meubles Louis XVI, tout est clair, net. Salut Jeanne. Bonjour Didier, tu m'as préparé mon goûter? Oui. Il quitte son cartable gypsière marron, enlève son manteau, la bonne les prend et les met dans le placard d'entrée. habiller, va dans la salle à manger. Elle le suit. Jeanne n'est pas très grande, mince, brune, elle a dans les 25 ans. Didier a 10 ans, il est blond, un visage enfant, mince. Il porte un short anglais beige avec des chaussettes blanches, une chemise blanche et un pull crème. Il trouve sur la table de la salle à manger un goûter, bol de lait chaud, de la confiture, des biscottes, un Mars et une orange. Pendant qu'il se met à table, la bonne lui demande « Ça s'est bien passé l'école ?»« Oui, comme d'habitude. »« J'espère que vous aurez une meilleure note que le mois dernier. » Didier hausse ses épaules. « Si vos parents savaient que vous me travaillez mal, ils ne seraient pas contents du tout. »« Ils s'en foutent. » Il ne faut pas parler comme cela. Tu sais ce qui me ferait plaisir, Jeanne? Non, tu as déjà tellement de choses. J'aimerais apprendre à jouer du piano. Apprenez d'abord vos leçons. Didier hausse ses épaules. Ce n'est pas la même chose. L'on sonne à la porte d'entrée. La bonne va ouvrir. C'est madame. Bonjour madame. Maman! Didier court vers sa mère. Il porte un manteau et une toque de fourrure argentée. Ses bras sont encombrés de paquets de toutes les couleurs. Maman! Bonjour mon chéri. Je t'en prie, ne cherche pas à m'embrasser. Je suis très pressée. Tenez Jeanne, prenez quelques paquets et aidez-moi. Nous allons dans l'autre chambre. Didier les suit toutes les deux. La mère quitte son manteau et sa toque qu'elle met sur une chaise. Dessous, elle a une robe beige. Eugénie Descartes, la mère, est grande, mince, cheveux courts frisés, blonds. Visage agréable. Elle a 35 ans, mais en paierait un peu moins. Je vous en prie, Jeanne, aidez-moi à ranger tous ces achats. Sa chambre, allongé sur son lit, il feuillette un Astérix. C'est toujours la même chose. Elle n'a jamais le temps. L'on sonne à la porte d'entrée. Doit être père. Il court lui ouvrir. Bonjour Didier. Il embrasse son fils. Monsieur Philippe Descartes est grand, mince, cheveux et petites moustaches brunes. Il est habillé d'un manteau gris et d'un pantalon noir. Papa, tu viens jouer avec moi au... Didier, laisse ton père, il n'a pas le temps. Bonjour Eugénie. Bonjour Philippe, tu sais que nous sortons ce soir. Oui. Excuse-moi Didier. Mais je n'ai pas le temps. L'enfant fait la tête. Le père se penche vers lui. Que veux-tu, mon petit? Nous avons des obligations, ta mère et moi. Allez, va jouer. Philippe Descartes est secrétaire d'État à la communication. À cause du travail de sa femme, qui est PDG d'une agence de voyage, Voyage et Culture, il habite Lyon tout en travaillant à Paris. Le mari et la femme sont très pris par leur travail et leur relation. Ils aiment leur fils, mais n'ont pas le temps de s'en occuper. Ils lui ont montré qu'ils l'aimaient une fois pour toutes, et cela doit suffire. L'enfant doit comprendre qu'ils n'ont pas le temps de le lui dire constamment. Et puis il a tout ce qu'il demande, du moment que ça ne les gêne pas trop et que ça ne leur fait pas prendre de temps. De toute façon, vu les jouets qu'a l'enfant et le décor où il vit, l'on voit très bien qu'il est gâté et heureux. Les apparences sont là, flatteuses, et c'est le principal. Va à l'école à Saint-Michel. C'est une petite école privée qui se trouve dans une petite rue qui est parallèle à l'avenue Berthelot. Didier n'est pas heureux dans cette école. Les élèves ne l'aiment pas parce qu'il est timide et n'aime pas les jeux brutaux. Les professeurs non plus, parce qu'il est rêveur et qu'il ne répond pas toujours aux questions. Didier n'a qu'un ami, c'est Polycarpe. Il a le même âge que lui, plus petit et rachitique. Il est blond lui aussi. Polycarpe non plus n'est aimé des autres, parce qu'il a un côté féminin. Aux récréations, les deux garçons passent leur temps à marcher en parlant.
Pas fait mon devoir, je sèche.
En sortant de l'école, Polycarpe demande à Didier s'il veut l'accompagner pour aller chez son grand-père.
Oui, je veux bien, mais il ne faut pas que je reste trop longtemps, hein, parce que ma mère ne veut pas que je rentre trop tard. Ce n'est pas loin de chez toi, c'est rue Garibaldi.
Polycarpe mène Didier chez son grand-père, qui habite un vieil immeuble qui fait l'angle de la rue Garibaldi et le boulevard des Belges. C'est un vieil immeuble vétuste. Il y s'y rentre et monte au deuxième étage. Polycarpe sonne. La porte s'ouvre. C'est un vieux monsieur, petit et maigre, tout ridé, avec des lunettes en métal, des cheveux et une barbe blanche. Il est habillé d'un vieux pantalon velours marron, d'une chemise blanche et d'un pull sans manches marron.
Bonjour mon petit, entrez.
Je suis venu avec mon copain d'école, c'est Didier.
Entrez mes enfants.
Ils entrent. C'est un petit deux pièces, couloir, séjour, chambre et cuisine. C'est sombre, vieux. Les meubles sont dépareillés, 1930-1950. Il les fait entrer dans le séjour. Première chose que voit Didier, c'est un piano droit de salon. Il s'approche du piano. Vous avez un piano?
Oui.
Mon grand-père était professeur de piano. J'aimerais bien apprendre, moi aussi. Le vieux monsieur lui dit.
Demande à ta maman la permission. Je te donnerai des cours.
Oui, je lui demanderai. Vous pouvez me jouer quelque chose?
Je ne peux pas. Il faut que je le fasse raccorder. Vous voulez goûter, les enfants?
Non, il faut que je parte. Ma mère ne veut pas que je traîne.
N'oublie pas de demander à ta maman pour les leçons. Qu'elle vienne me voir. Je m'appelle Jean Lazare.
Chez lui, ses parents ne sont pas là. Jean lui dit « Tes parents sont partis, passer la journée et la soirée chez des amis. Tu les verras demain. » Tard dans la nuit, qui est réveillé par une conversation qui se veut étouffée, mais qui est suffisamment forte pour qu'ils puissent entendre. Au début, il ne comprend pas très bien ce qu'ils se disent. Il ne distingue pas les voix. Son esprit est encore dans le brouillard. Tout à coup, une phrase met son esprit en éveil.
Putain, garce.
C'est la voix de son père.
Laisse-moi, tranquille, tu me dégoûtes.
Sa mère.
Papa, maman,
t'as entendu? C'est le petit qui a crié. Des pas. La porte de sa chambre qui s'ouvre. Didier ferme les yeux. La porte se referme.
Non, il a dû faire un mauvais rêve, dit la mère.
Et s'il nous avait entendus, dit le père. Et alors, de toute façon, il faut bien qu'il sache un jour ou l'autre que ça ne va pas entre nous deux. Didier est dans son lit, effondré. Il ne sait plus où il en est. Le lendemain matin, après une nuit où il a très peu dormi, il se réveille. Ses parents ne sont plus là. Il part à l'école, inquiet, ne sachant pas ce qui va se passer. Son esprit est tellement préoccupé qu'il ne peut pas suivre les cours.
6 font 30, 6 fois 6 font 36, 6 fois 7 font 42, 6 fois 8 font 48, 6 fois 9
54.
Font 500,
54.
54,
6 fois 10 font 60,
6 fois 11 font 70,
6 fois 12 font...
72. L'exercice est écrit au tableau. Vous avez tous vos crayons? Alors, ça n'est pas la peine de parler, Catherine. Bon, commencez.
Alors, Didier, toujours dans la lune, forêt des ordres tenus samedi. Après les cours, Didier part avec Polycarpe. Je vais chez mon grand-père, tu viens? Didier hausse ses épaules. Oui? grand-père les reçoit avec le sourire.
Polycarpe, je t'invite dimanche, nous irons à la pêche.
C'est vrai, grand-père,
merci. Didier aimerait lui aussi avoir un grand-père qui le mène à la pêche.
Alors Didier, tu as parlé à ta mère?
Didier rougit. Non.
Dis-lui de venir me voir, à moins que tu ne veuilles plus apprendre le piano.
Bien sûr qu'il aimerait apprendre le piano, mais comment le dire à sa mère? Elle est toujours occupée et peut-être à se disputer avec père, qu'elle n'aime peut-être pas. Ah, c'est pas bien le moment. Il y a en plus de tout ça, la colle du samedi. J'en parlerai à Jorne. En rentrant chez lui, il retrouve sa mère et Jorne. Sa mère n'a pas le temps. Elle se prépare pour un dîner au restaurant. Lui et Jorne vont dans la salle à manger. Ne sois pas triste. Ta mère a toujours beaucoup de choses à faire. Il s'assoit à table. N'aie pas faim. Mange-moi ton orange. Il l'appelle. Jorne.
Oui.
Je suis collé samedi après-midi. 2 heures. Qu'est-ce que tu as fait?
Rien, j'étais un peu discret.
Tu ne leur diras pas, dis.
Et comment allons-nous faire?
Tu leur diras que tu m'emmènes dans les magasins.
Jean soupire.
Bon, je veux bien, mais c'est la dernière fois.
Après-midi, il manque un professeur. Didier sort de l'école plus tôt que prévu. Il rentre chez lui. Il veut se débarrasser le plus vite possible d'un devoir de maths. Arrivé chez lui, il sonne. Personne ne vient ouvrir. Il se souvient que c'est jour de congé de la bonne. Comme il a les clés, il ouvre la porte d'entrée. Il fait sombre. Toutes les portes des pièces sont fermées, sauf celle de la chambre de sa mère. Il entend comme des gémissements. Comme si une personne souffrait. Et l'on dirait que c'est dans la chambre de sa mère, que c'est sa mère qui souffre. Ces bruits, ces gémissements proviennent de la chambre de sa mère. Il en est sûr.
Maman!
Il va vers la chambre. Il voit sa mère sur le lit, nue, avec un homme nu aussi, sur elle. Caressé sur le pas de la porte, ils ne l'ont pas vu, ils se sauvent en courant. Rouge de honte, les oreilles qui bourdonnent, une envie de pleurer, crier. Il ouvre la porte de l'appartement. Descend les escaliers en vitesse. Il sort de l'immeuble. Il respire un peu mieux. Que faire? Il n'en sait rien. Il a envie de courir, courir, pour oublier ce qu'il vient de voir. Mais la course ne lui suffit pas. Il a besoin d'être auprès de quelqu'un pour pouvoir respirer un peu de chaleur humaine, propre, vraie. Lazare devant l'immeuble du grand-père, Jean Lazare. Il sonne à la porte. Le grand-père lui ouvre. Et le fait entrer.
Tu as quelque chose à me dire?
Didier fait non de la tête. Il a les larmes aux yeux.
Je ne vois pas.
Le grand-père se penche vers lui. L'enfant ne répond pas. Et tout à coup, il se met à sangloter. Le grand-père le prend dans ses bras.
Mon petit, pleure, va. Ça te fait du bien.
Après quelques minutes, l'enfant s'est calmé.
Tu veux parler?
Non.
Tu veux que je te joue quelque chose?
Oui. Il se met au piano et joue. Didier dit qu'il doit partir.
Reviens quand tu veux, mon grand.
Didier s'en retourne inquiet. Que va dire sa mère ? Elle est comme d'habitude superficielle, elle ne fait même pas attention à lui. Didier, de temps en temps, va passer un moment chez le grand-père et au restaurant. Lui et Jordan vont dans la salle à manger. Ne sois pas triste, ta mère a toujours beaucoup de choses à faire. Il s'assoit à table. N'aie pas faim, mange-moi ton orange. Il l'appelle. Jeanne,
oui, je suis collé samedi après-midi, 2 heures.
Qu'est-ce que tu as fait?
Rien, j'étais un peu discret.
Tu ne leur diras pas, dis. Et comment allons-nous faire?
Tu leur diras que tu m'emmènes dans les magasins.
Jean soupire. Bon, je veux bien, mais c'est la dernière fois.
Le lendemain après-midi, il manque un professeur. Didier sort de l'école plus tôt que prévu. Il rentre chez lui. Il veut se débarrasser le plus vite possible d'un devoir de maths. Arrivé chez lui, il sonne. Personne ne vient ouvrir. Il se souvient que c'est jour de congé de la bonne. Comme il a les clés, il ouvre la porte d'entrée. Il fait sombre. Toutes les portes des pièces sont fermées, sauf celle de la chambre de sa mère. Il entend comme des gémissements, comme si une personne souffrait. Et l'on dirait que c'est dans la chambre de sa mère, que c'est sa mère qui souffre. Ces bruits, ces gémissements proviennent de la chambre de sa mère. Il en est sûr.
Maman!
Il va vers la chambre. Il voit sa mère sur le lit, nue, avec un homme nu aussi sur elle. Caressé sur le pas de la porte, ils ne l'ont pas vu. Ils se sauvent en courant. Rouge de honte, les oreilles qui bourdonnent, une envie de pleurer, crier. Il ouvre la porte de l'appartement. Descend les escaliers en vitesse. Il sort de l'immeuble. Il respire un peu mieux. Que faire? Il n'en sait rien. Il a envie de courir, courir, pour oublier ce qu'il vient de voir. Mais la course ne lui suffit pas. Il veut, il a besoin d'être auprès de quelqu'un pour pouvoir respirer un peu de chaleur humaine, propre, vraie. Devant l'immeuble du grand-père, Jean Lazare. Il sonne à la porte. Le grand-père lui ouvre. Et le fait entrer.
Tu as quelque chose à me dire?
Didier fait non de la tête. Il a les larmes aux yeux.
Ça ne va pas.
Le grand-père se penche vers lui. L'enfant ne répond pas. Et tout à coup, il se met à sangloter. Le grand-père le prend dans ses bras.
Mon petit, pleure, va. Ça te fait du bien.
Après quelques minutes, l'enfant s'est calmé.
Tu veux parler?
Non.
que je te joue quelque chose?
Oui. Il se met au piano et joue. Didier dit qu'il doit partir.
Reviens quand tu veux, mon grand.
Didier s'en retourne inquiet. Que va dire sa mère ? D'habitude superficielle, elle ne fait même pas attention à lui. Didier, de temps en temps, va passer un moment chez le grand-père. Il a dit à sa mère qu'il restait à l'étude pour faire ses devoirs. Là, chez le grand-père Jean, il apprend le piano. Une nuit, ses parents se sont encore disputés violemment. Didier a tout entendu de sa chambre, et dans la discussion, il a appris que son père, lui aussi, trompait sa mère. Il ne peut pas prendre le parti d'aucun des deux. Personne n'est innocent. Il y a un innocent dans cette affaire, c'est lui, mais il ne le sait pas. Sa mère va le chercher à la sortie de l'école. Elle ne le voit pas, mais dans les élèves qui sortent, elle reconnaît Polycarpe.
Ma tempense en snatch, j'ai pas fait mon devoir, je sèche.
Didier, je veux le savoir. Il est chez mon grand-père. Il apprend le piano. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mène-moi à Didier. Il l'amène chez son grand-père. Il est surpris et irrité de voir son fils dans cette maison avec ce vieux bonhomme. Mais que fais-tu là?
Il ne fait rien de mal, madame.
Réponds, Didier. Rien, je passe un moment chez monsieur.
Il apprend le piano.
Le piano? Tiens, et qu'est-ce qui te paye ses leçons?
Personne, je les lui donne gratuitement.
Je vous remercie, monsieur. Je suis votre obligé. Sur le chemin du retour. Je ne savais pas que tu étais si cachotier. Je ne veux plus que tu ailles chez ce monsieur. Tu n'as pas vu ce que c'était que ce monsieur? Il est sale, vit dans un endroit pas possible. Non, tu n'auras plus. Je ne comprends pas ce que tu aimais faire avec lui. Le piano. La mère ouvre ses épaules. Et puis dépêche-toi. J'ai été te chercher parce que je passais dans le quartier. Il faut que nous rentrions tout de suite. Je sors ce soir. Avec père? Non. Seul dans sa chambre, Didier se dit « Mère n'a jamais le temps, elle couche avec un homme, père a des maîtresses. » Il court toujours. Je n'ai pas le droit d'apprendre le piano parce que mes parents ne veulent pas et que le grand-père est vieux et moche. À l'école, je m'ennuie et pense à tout ça. Je suis tout seul, toujours tout seul, tout seul. Il n'y a que Jean qui m'aide un peu. Personne ne s'occupe de moi. Personne. Devient neurasthénique, il n'a personne pour aimer, ni aucun plaisir quelconque. Son corps s'est vidé de tout. Sa mère, lorsqu'il a vu qu'elle avait un amant, au début, il aurait aimé la gifler, la battre, pour lui prouver qu'elle le trompait lui aussi. Mais maintenant, avec le comportement qu'elle a, ça lui est insignifiant ce qu'elle fait. Quant à son père, il n'est jamais là. Qu'est-ce qu'un père toujours absent ? Didier se sent de plus en plus étranger au milieu de ses parents. Au retour de l'école, ses parents disent à Didier de venir vers eux. Ils le mènent au salon et tous les trois s'assoivent sur le canapé. Didier est au milieu d'eux. La mère lui prend la main et lui dit « Voilà mon petit, ton père et moi avons décidé de divorcer. Oui. » Nous nous entendons plus. Tu m'écoutes? Voilà. Tu vas être un grand garçon et tu vas nous dire avec qui tu veux vivre. Avec ton papa ou ta maman? Allez, dis-le-nous. Le père dit, « Remarque, je trouve qu'il a plus besoin de sa mère que de son père. » La mère hausse ses épaules, lâche la main de Didier. « Et cela, tu dis ça parce que tu ne veux pas le prendre avec toi. Et comment ferais-je? Je travaille, moi. Et moi, alors? Et comment ferais-je pour refaire ma vie ?» Elle se lève. Il lui répond, « Comme tu as fait jusqu'à présent, garce. Et toi, que faisais-tu avec les poules du ministre? Eugénie, cela suffit. De toute façon, je ne pourrais pas m'occuper du petit. Moi non plus. C'est ton fils tout autant que le mien. » Il se lève furieux. Ah, tu en as de bonnes. Qui l'a voulu?
J'étais trop jeune, je ne comprenais pas.
Le père lui hurle à la figure. Alors, qu'est-ce qu'on en fait?
Je ne sais pas, moi.
Elle hausse ses épaules et dit. Mettons-le en pension, nous payerons chacun moitié-moitié.
Quoique je gagne moins que toi,
le père dit. C'est cela? Ne te compte pas pour que je paye la pension à moi tout seul.
Mais je ne pourrai pas. Et puis, nous allons le mettre dans quel pensionnat?
Où tu voudras.
Non, où tu voudras toi,
dit la mère. Le père dit.
En tout cas, pas trop loin de Paris.
Le père jette un coup d'œil sur le canapé.
Mais où est-il? On se décarcasse pour son avenir et monsieur a quitté la pièce.
La mère lui dit. Elle a dû aller dans sa chambre. Je vais aller lui dire ce que nous avons décidé. Elle sort de la pièce. Elle va vers la chambre de Didier.
Ouvre la porte.
Éclair, personne. Sort de la pièce.
Didier! Didier!
Didier!
Après avoir fait toutes les pièces, elle revient vers son mari.
Didier n'est plus dans l'appartement.
Le père dit, mais où est-il?
Je ne sais pas, moi.
Le père hausse ses épaules, regarde sa montre.
23 heures, c'est impossible qu'il soit sorti à cette heure.
La mère soupire et dit,
il est tout de même sorti, il faut le rechercher maintenant. Ah, l'on peut dire qu'il nous en donne du souci celui-là.
Cadavre, le Rhône.
Didier sursaute, se retourne et voit à côté de lui un vieil homme, tout ridé, sale, avec un bonnet de laine marine, des gants de laine troués et un manteau gris.
C'est plein de cadavres, je te dis. Une nuit, j'ai vu une main qui flottait au fil de l'eau. Tu me regardes comme ça, pis.
Il tend les mains.
Je suis pas un cadavre, moi.
Enfin, un peu rire, recule.
Te dis que t'es dans le Rhône.
L'homme tend les mains pour le toucher.
Enfin, recule et tombe à l'eau.
Le vieil homme se sauve. Le petit prince remercie le vieil homme de l'avoir aidé à rejoindre les étoiles qui reflètent sur l'eau. Il va retrouver un monde meilleur où le prince est un enfant.
Radio Canut vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La mort du petit prince. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre,